Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il serait facile de voir Lili Boulanger comme l'équivalent pour la musique classique de la figure du poète maudit. Dotée d'un talent absolument exceptionnel, elle vit depuis ses 2 ans jusqu'à sa mort à 24 ans sous le signe de la tuberculose, qui rend son existence pénible au quotidien. Récompensée du prix de Rome de la composition en 1913, à l'âge de 19 ans, la maturité et l'originalité de son œuvre détonnent, et il est dur de ne pas faire le lien entre ses choix de thèmes sombres et son état de santé. Pourtant, comme le rappellent Olivia Matisse et Annegrette Fausser dans ce 3e épisode de la série consacrée à Lili Boulanger par Franck Mallet pour Le rythme et la raison, diffusée pour la première fois le 29 septembre 1993, il ne faut pas réduire l'œuvre de celle-ci à un vulgaire journal de bord des souffrances d'une jeune artiste. Conception réductrice et tentante, tant le destin de Lili Boulanger est romanesque. C'est pourtant une œuvre qui rayonne, non par la biographie de sa compositrice, mais par sa valeur intrinsèque, notamment grâce à son travail autour de la voix, point focal de cette émission. Une exploration de l'œuvre encore trop peu connue de la prodigieuse Lili Boulanger, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Annegrette Fausser, Olivia Matisse, il y a quelques mois, c'était au mois de mai, non pas en France mais en Allemagne, il y a eu un grand festival, c'était le 3e de la série, un festival qui est donc régulièrement consacré chaque année à un compositeur ou une compositrice femme surtout.
Ce sont des festivals à Kassel qui sont des festivals pour la musique des femmes, ouais. Qui se concentrent sur, d'habitude plutôt sur un point grave, sur un centre, ouais. Auquel on choisit plusieurs femmes. Et là, ce qui est spécifique avec Kassel, c'est dans le 3e festival, ça s'est concentré sur un seul compositeur, c'est-à-dire une seule femme, c'est Lili Boulanger. La recherche sur l'œuvre et la personnalité de Lili Boulanger n'a jamais tout à fait été arrêtée parce que pendant toute sa vie, sa sœur Nadia Boulanger a vraiment attribué pour que l'œuvre de Lili a été distribuée. Puis il y avait Edward Reiser, un musicologue néerlandais qui a travaillé sur Lili Boulanger dans les années 30. Il y avait une issue de la revue musicale qui est apparue dans les années 80. Et il y avait surtout la thèse de Leonie Rosenstiel, une Américaine qui a travaillé sur Lili Boulanger.
C'est une thèse qui est devenue un livre sur la vie et l'œuvre. Là, c'est une sorte de panorama sur sa vie et son œuvre avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires et beaucoup de mythologie aussi.
Oui, mais c'était quand même aussi le premier travaux approfondis, le premier travaux qui avait quand même accès aux sources sur Lili Boulanger, un point de départ sans lequel on n'aurait rien pu faire, nous, maintenant, parce qu'on avait comme base l'œuvre de Rosenstiel. Puis il y avait un article de Sylvie Krognok sur l'œuvre mélodique de Lili Boulanger, surtout sur Les clairières dans le ciel. Et pour son centenaire, pour son 100e anniversaire, à Kassel, se sont retrouvés plusieurs musicologues qui n'ont pas toujours travaillé sur Lili Boulanger pour s'approcher d'une manière tout à fait, entre guillemets, musicologique à son œuvre, comme on s'approche aux autres compositeurs, je ne sais pas, Caplet, Debussy ou d'autres compositeurs.
Comment vous situez l'œuvre vocale donc, de Lili Boulanger par rapport à son époque? On sait qu'elle a étudié avec différents professeurs. Est-ce qu'elle a subi une influence musicale de ses professeurs? Inévitablement, j'imagine.
Inévitablement, elle a subi des influences. Ce n'est pas forcément seulement ses professeurs qui étaient Georges Caussade et puis Paul Vidal. Mais c'était aussi l'influence de son entourage, parce que Lili Boulanger était née dans une dynastie de musiciens. Son père était déjà un compositeur très connu, c'était Ernest Boulanger, qui lui-même avait gagné le prix de Rome, qui était un ami de Massenet, de Gounod, de tous ces compositeurs-là, et qui était déjà très âgé quand Lili Boulanger était née. Et la maison des Boulanger était une maison qui était un salon très important pour l'époque où il y avait des compositeurs, des poètes, des peintres qui sont venus. Pour citer, il y avait Forêt qui venait à peu près toutes les semaines, qui jouait au piano, et Lily, comme très jeune fille de 6 ans, chantait. Et ce n'était pas seulement une fois, c'était plusieurs fois.
Elle chantait donc enfant, enfin, des mélodies de Forêt, des choses comme ça.
Oui, elle chantait par exemple à prima vista quelque chose comme une prière ou d'autres mélodies. Et Forêt, c'est connu, il était émerveillé des capacités de cette jeune fille de 6 ans, 7 ans.
Oui, cette capacité musicale de Lily Boulanger a été reconnue très tôt. Donc c'est ce qui a fait qu'on l'a un petit peu poussée vers la musique.
Non, pas du tout. On n'a jamais dû pousser Lily Boulanger. C'était vraiment quelqu'un qui a respiré la musique, pour prendre quelque chose un peu plus poétique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, dès sa tendre enfance, était dans cette ambiance, évoluait tout à fait naturellement. Et d'une manière tout à fait comme un jeu, c'est-à-dire pas du tout poussé, sérieux, réglementé. Il faut dire aussi que Lily Boulanger était dans une situation tout à fait spéciale parce que très jeune, à l'âge de 2 ans, elle a eu une pneumonie très grave. Avant, c'était une enfant tout à fait de bonne santé. Et après cette pneumonie, elle était malade. Et elle était malade jusqu'à la fin de sa vie. Une santé très fragile, une résistance physique très très basse, et dès qu'il y avait quelque chose, la pauvreté, au lit. Ça a quand même influencé sa vie, ça lui a donné beaucoup de peine, mais ça lui a aussi permis de développer d'autres facettes et d'aller vers la musique.
Que vous allez justement tordre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a souvent assimilé cette personnalité faible, maladive, à une musique qui le serait. Or, je crois qu'à l'écoute de cette musique, c'est tout à fait le contraire. Donc ça, vous avez dû bien vous en rendre compte au fil de vos lectures, des partitions.
Ah oui, tout à fait. C'est une musique qui a un caractère à elle. C'est une musique, je ne dirais pas qu'elle est faible ou maladive.
Olivia Matisse.
Il n'y a pas seulement une musique de Lily Boulanger, il y a plusieurs musiques, je dirais, comme chez d'autres compositeurs, c'est-à-dire que chez elle, il y a... Chaque œuvre est un problème défini par, disons, le texte qu'elle choisit ou ce qu'elle essaye de faire. On pourrait diviser son œuvre en genres, par exemple. Elle a écrit une série de psaumes. D'ailleurs, elle a écrit toute une série de musiques assez religieuses. Elle a ses autres côtés aussi. Sa musique de chambre n'a rien de religieux, mais il y a toujours une sorte de mélancolie que je trouve passe à travers même ses œuvres les plus légères et les jusqu'aux plus sérieuses.
Cette mélancolie, c'est peut-être ce qui est l'une des caractéristiques de la musique de Lili Boulanger.
Ça pourrait être une des caractéristiques de l'œuvre de Lili Boulanger, mais il y a certainement beaucoup d'autres caractéristiques de son œuvre. Une des choses qui m'a frappée dans toutes les recherches que j'ai faites sur l'œuvre de Lili Boulanger, c'est sa préoccupation avec la couleur instrumentale et la couleur harmonique. Et je crois là, ça c'est un point où il faut vraiment chercher. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a certainement, dans le choix du texte et dans le choix des sujets, une ouverture vers la mélancolie. Une ouverture vers la mélancolie qui est aussi, je crois, conditionnée par l'époque. C'est-à-dire, Lili Boulanger avait 20 ans quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Et on sait très bien qu'elle s'est beaucoup préoccupée avec cette guerre qui a amené dans la guerre ses amis. Les gens avec qui elle a fait études, ses proches, c'est-à-dire il y avait un homme qui jouait un rôle dans sa vie et bien sûr il était aussi à la guerre. Et il y a dans son agenda des petites notes où elle parle de la guerre. Par exemple, il y a une, en 1916, le 2 juin, elle note « Bataille navale dans la mer du Nord entre les Anglais et les Allemands, quelle horreur !» sans résultat autre que abomination sans nombre, souffrance, où c'est trop pénible. Travaille le matin au piano pour les mélodies de Jam, affixées pour la copie, etc. Alors elle continue avec les choses, mais quand même, ce qui se passe dans le monde, ça ne passe pas sans qu'elle s'en occupe. Et je crois que ça aussi bien que sa condition personnelle, quelque chose comme la guerre a vraiment influencé son choix de texte, son choix de sujet, même le choix de sujet d'opéra, La Princesse Malène.
Alors avant de venir sur La Princesse Malène, on peut peut-être dire que sa première mélodie sérieuse, éditée, c'est Absence, sur un texte de Maeterlinck.
Alors, Attente était une de ses premières mélodies, peut-être la première qui a... été édité. Il y a aussi Reflet sur un autre, aussi une mélodie sur Maeterlinck, et ça voit déjà sa préoccupation avec les poètes symbolistes. Il y avait avant une mélodie qu'elle a écrite lors de la mort de son père en 1906, mais qui est détruite, qui s'appelle La Lettre de mort. Et là, on voit vraiment que le choix de texte a une relation avec elle, mais je ne crois pas du tout que les textes qu'elle choisit, à part peut-être une certaine affinité que chaque compositeur doit avoir, a à faire avec ses conditions de maladie ou de malheur, mais que, comme Olivia Mathis a dit dans un texte qu'elle a écrit, que la musique lui a permis de transcender sa souffrance vers autre chose, vers l'œuvre d'art. Et on ne donne pas justice à Lili Boulanger quand on considère son œuvre comme une sorte de journal de souffrance d'une jeune compositeur, comme... quelques musicologues des années 30 et même des années 80 ont fait avec les clairières dans le ciel.
Corinne Laporte et Christophe Ménard ont enregistré tout spécialement pour cette émission le cycle de mélodies Clairières dans le ciel sur des poésies de Francis Jammes. Voici la première de ces mélodies. Thank you. y a une partition qui restera inachevée, sur laquelle plane un certain mystère, sur lequel vous avez travaillé, Annegret Frauser. C'est La princesse Malène, le drame donc écrit par Maurice Maeterlinck. Historiquement, on va peut-être dire chronologiquement comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'elle était en contact donc avec Maurice Maeterlinck. Elle lui a demandé l'autorisation d'utiliser ce texte pour le mettre en musique. Et à l'inverse de Debussy, tout s'est très bien passé avec Maeterlinck.
Oui, il faut dire aussi que Lili Boulanger a demandé à peu près 20 ans plus tard que Debussy de pouvoir mettre en musique La princesse Malène. Et la raison pourquoi Debussy ne pouvait pas le mettre en musique, c'était parmi autres celles que donnait Maeterlinck, c'est qu'il avait déjà promis à notre compositeur Vincent Dindy. La raison pour laquelle Lili s'est intéressée à La princesse Malène, je crois, ses lectures. Elle a beaucoup lu de Maeterlinck, elle a lu La princesse Malène très souvent. Et on connaît déjà de premières esquisses, perdues malheureusement, des années 1912, alors longtemps avant le prix de Rome. Puis elle gagne le prix de Rome, et c'est en 1913, en juillet. Et juste après, l'éditeur Ricordi lui offre un contrat exclusif. Et partie de ce contrat fait la demande que Lili Boulanger doit composer deux opéras qui formeront chacun spectacle complet. Alors, elle doit composer pour, à cause du contrat, deux opéras. Bien sûr, comme elle voulait déjà faire une princesse Malène, elle dit tout de suite qu'elle voudra le faire. Ricordi, comme maintenant son éditeur, rentre en rapport avec Maeterlinck. Et pendant un an, il n'y a rien. Et puis, en 1915, une lettre de Ricordi, elle dit oui, mais alors Maeterlinck, il est quand même intéressé de dire oui. Et au début de 1916, il y a une lettre de Maeterlinck, le 16 février. « Mademoiselle, je vous autorise avec le plus grand plaisir à mettre en musique mon drame à 5 actes, La princesse Malène. » Et à partir de ce moment, il y a une correspondance très intensive entre Ricordi, Maeterlinck et Lili Boulanger. Et cette collaboration est très intéressante pour quelqu'un qui travaille sur l'opéra français parce qu'on peut suivre les différentes étapes, comment le livret commence et comment cet opéra prend forme,
devient un drame musical.
Parce qu'on a un drame, on a un éditeur qui en même temps est librettiste, c'est-à-dire c'est Ricordi qui transforme le drame. Il y a Maeterlinck qui intervient et dit non, il faut quand même couper ça et peut-être rajouter ça. Il y a Lili Boulanger qui coupe. Elle jette dehors toutes les répliques inutiles. Et finalement, il y a une version de drame qui est plus ou moins retenue à la fin de 1916. Elle commence à composer. Il y a dans son agenda, par exemple, une petite note où elle dit ah, « bon, peut-être aujourd'hui j'ai trouvé le thème de Hjalmar ». Et dans ses esquisses, on trouve aussi thème de Malène, thème de la fatalité, thème de la reine Anne. Reine Anne, c'est un autre personnage du drame. Et ces petites indications donnent des indications sur la forme du drame, c'est-à-dire Lili Boulanger utilise pour l'organisation du matériel thématique le vieux système de leitmotiv qui est plus ou moins été répandu en France avec l'introduction de l'œuvre de Wagner. Mais ce n'est plus à l'époque de Lili Boulanger quelque chose d'étonnant. Ce n'est plus wagnérien de l'essence des années 1870-1880, mais c'est devenu une langage commune de l'opéra de la fin du siècle. Fauré écrit par exemple sur son opéra Pénélope, j'ai choisi la technique de leitmotiv, non parce que je suis wagnérien, mais parce qu'on n'a pas un meilleur moyen pour organiser
le matériel musical. Alors qu'en est-il de cette partition aujourd'hui de La princesse Malène? Car c'est une partition inachevée, c'est une partition qui a disparu. Est-ce qu'il y a des bribes que vous avez retrouvées? J'ai l'impression que c'est un vrai travail d'enquêteur là, que vous avez opéré.
Oui, on trouve une âme détective là-dedans. Oui. L'opéra a été presque achevé. Il y a une petite note dans un carnet qu'elle a eu pour les corrections où elle écrit aux feuilles 37, copié en décembre 1917, il faut tout finir avant le 1er janvier. il faut, et c'est deux fois souligné avec quatre points d'exclamation, le pourrais-je. Décembre 1917, c'est trois mois avant sa mort, et cette petite notice montre quand même qu'elle a presque achevé l'œuvre. Il y a aussi une lettre de Nadia Boulanger à Édouard Reiser où elle lui écrit « Oui, la princesse Malène, elle est presque terminée, mais elle est très belle et elle n'est pas finie. » On sait que Ricordi, à un moment, s'est beaucoup intéressé à cette œuvre inachevée. Si ça a brûlé lors du bombardement de Milan dans la Deuxième Guerre mondiale où les archives de Ricordi ont brûlé et on n'a pas pu tout sauver. On ne sait pas si c'est encore dans un lieu public, mais seulement pas découvert, ou si Nadia Boulanger l'a finalement brûlé, ce qu'à un moment donné, elle a pensé, parce qu'elle disait, Lili Boulanger était un perfectionniste, était quelqu'un qui ne voulait pas que ses matériaux de travail soient dilapés un peu comme ça, mais que pour garder sa mémoire, il ne faut pas donner que les œuvres achevées, que les œuvres parfaites. Et il faut dire, les œuvres qu'on connaît, elles sont parfaites.
Parlons d'une œuvre qui est de la fin de Lili Boulanger, qui est ce Pigezou, Olivia Matisse. C'est une œuvre, d'après la légende, donc, qui aurait été dictée à sa sœur Nadia Boulanger sur son lit de mort. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une partie du mystère?
Là aussi, d'abord, je dois dire que ce n'est pas une œuvre achevée, puisque ça fait partie d'un requiem qu'elle écrivait pour sa propre mort. Il y a plusieurs légendes. Il y a la légende, comme vous l'avez dit, qu'elle a dicté cette œuvre, Le Pied Jésus, à sa sœur sur son lit de mort. Mais nous avons plusieurs partitions de cette œuvre. Il y a un manuscrit pour chant et orgue, écrite dans au moins deux mains. Alors, on ne sait pas si ce sont les mains de Nadia et de Lili, ou on ne sait pas en fait ce que c'est. Mais on dirait bien qu'il y a deux mains. Il y a aussi une autre version pour chant, orgue, quatuor, accorde et harpe, qui également est écrite en deux mains, mais cette partition-là manque toutes les indications de nuances. Donc, la version finale est un conglomérat de ces deux partitions. Il y a un cahier d'esquisse qui survit à la Bibliothèque nationale, dans laquelle on trouve d'autres mouvements de requiem. On trouve en esquisse un Kyrie et un Agnus Dei. Lili Boulanger est morte en 1918, la même année que la fin de la guerre. Après sa mort, il y a toutes sortes de légendes qui ont commencé à se développer. Et il y a eu petit à petit de l'intérêt qui a été porté pour elle, qui aboutit 5 ans plus tard, en 1923, à une série de concerts dans la salle du conservatoire et à la salle Gaveau, dirigée par Henri Busser, qui était un grand ami de la famille, et avec Nadia Boulanger au piano. Et c'est surtout par ces concerts-là, ces deux concerts en janvier 1923, que plusieurs personnalités musicales ont pu connaître son œuvre. Par exemple, Arthur Honegger, l'influence de Lili Boulanger très fortement. Moi, je l'entends très fortement dans certaines œuvres de Honegger. Le roi David, Cantate de Noël et autres. Dans ces concerts de janvier 1923, il y avait Claire Croizat qui chantait. Claire Croizat était la maîtresse de Honegger, la mère de son fils. Et elle avait d'ailleurs chanté dans la première de Faust-Hélène, la cantate de Lili Boulanger. Donc c'était une grande amie de Lili Boulanger depuis toujours. Alors ça, c'est un sujet qui devrait être étudié plus profondément, qui est très très intéressant. Mais je voulais aussi parler de un autre musicien qui l'a connu, qui a connu son œuvre en 1923, et c'était Charles Koechlin. Il a écrit un ouvrage d'une centaine de pages qui s'appelle « Évolution de l'harmonie, période contemporaine, depuis Bizet et César Franck jusqu'à nos jours ». Il dit « Aujourd'hui, mai 1923, ce n'est un secret pour personne que certains musiciens, non de moindres et de pays divers, vont plus loin, beaucoup plus loin que les licences nouvelles étudiées jusqu'ici. » Et là, il cite Schoenberg, Stravinsky, Mio, Bartok et Lili Boulanger. Lili Boulanger, il la classe sous la catégorie de compositeur polytonal. Oui. On pense de son œuvre, on le met à côté de Forêt ou à côté de Ducas ou du Parc ou ces gens du début du siècle. Oui. Mais là, elle est mise avec Darius Milhaud.
Eh bien, Olivia, Matisse et Annegret Fauser, nous vous retrouvons demain en compagnie de Birgit Salomon-Stivner qui rédige en ce moment même une biographie sur Lili Boulanger pour écouter le cycle « Clairière dans le ciel » enregistré tout spécialement pour cette série d'émissions par Corinne Laporte et Christophe Ménard. Lili Boulanger, compositeur, Bernard Laniel, Marie-Cécile Mazzoni. La mezzo Doris Reinhardt dans la mélodie Le Retour sur un poème de Georges Delacuisse.
C'était Lili Boulanger, compositeur, l'œuvre vocale. Troisième partie de la série de Rythme et Raison, orchestrée par Franck Mallet, et diffusée pour la première fois le 29 septembre 1993, avec Olivia Matisse et Annegret Fausser.